Nous entretenons aujourd'hui avec l'écrivaine et critique d'art Catherine Millet, qui vient de faire paraître chez Flammarion Jour de souffrance, récit autobiographique qui entretient un lien très étroit avec son récit autobiographique La vie sexuelle de Catherine M., paru lui en 2001 et qui a connu un gros succès en librairie et aussi un succès auprès de la critique. Bonjour Catherine Millet.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté cette entrevue pour Spirale. Je vais tout de suite orienter l'entrevue en vous disant que ce qui m'intéresse dans vos récits autobiographiques, autant dans la vie sexuelle de Catherine M. que dans Jour de souffrance, c'est que ces récits autobiographiques ne sont pas de l'ordre de l'autobiographie simplement. Ils ont une valeur littéraire, à mon avis, très apparente. Ils sont un fait littéraire. Donc, j'aimerais vous questionner autour de qu'est-ce qui fait que ces récits autobiographiques ont une valeur d'œuvre. Donc, c'est surtout autour de cette idée-là, ce souci de la composition, cet ensemble qui semble très consistant. Qu'est-ce qui produit cette consistance dans votre œuvre? Donc, c'est autour de cette idée que j'aimerais orienter l'entrevue. D'abord, on pourrait dire que votre écriture, qui est à mon avis magnifique, très littéraire, pourrait parler sans doute de votre écriture, de votre style aussi, qui donne sans doute une très grande valeur littéraire à votre œuvre. Par contre, je dirais, en lisant vos critiques d'art, il n'y a pas une rupture de ton entre votre critique d'art et vos récits. Vous décrivez les choses avec une attention, un détail absolument magnifique, et j'ai retrouvé ce plaisir que j'avais à lire ces descriptions dans vos récits. Je les ai retrouvés aussi dans votre critique d'art. Donc, je ne voudrais pas passer par le style ou par l'écriture en tant que telle pour parler de la valeur littéraire de votre œuvre. J'aimerais plutôt parler de toutes ces références à l'art qu'il y a dans votre œuvre, qui indiquent, à mon avis, que ces récits, ou du moins pointent, font signe au fait que ces récits sont eux-mêmes des œuvres d'art. C'est vraiment dans cette direction-là que j'aimerais aborder la question. Et d'emblée, je vais l'aborder d'emblée en m'orientant vers une première question. Vous faites beaucoup référence à l'art dans vos récits. Bon, vous avez une espèce de rapport affectif à l'art, au sens où il vous permet de dévoiler un sens à vos expériences. Bon, vous faites référence beaucoup à Dali, par exemple aux appropriations paranoïaques. Vous faites référence aussi à un moment donné, à un début de chapitre dans Jour de souffrance, à cette marqueterie dans le studio au Palais Ducal de Turbin. Vous faites référence à cela tout de suite pour dire à quel point cette marqueterie vous étouffe un peu. Et tout de suite après, on retourne dans le récit et sans que le lien est très évident, mais vous ne revenez pas sur ce lien, vous faites tout de suite référence à cette jalousie qui vous enferme, et on a un lien là très très fort entre cette marqueterie qui vous étouffe et cette jalousie aussi qui vous étouffe. Donc vous faites référence à l'art comme ça, et l'art vous permet finalement d'exprimer quelque chose. Or, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'à un moment donné, vous le dites et vous expliquez en quoi l'art vous permet d'exprimer ces émotions et aussi. En repensant à de tels accès, je mesure combien sont précieuses les écaillures d'images tombées de lecture ou de vision de tableaux, de photographies, de spectacles de toutes sortes, tout au fond de notre mémoire, et qui finissent par cimenter notre patrimoine émotionnel très personnel. Nous y puisons, quand la nécessité s'en fait ressentir, des modèles desquels rapprocher les circonstances de notre propre vie et la manière que nous avons d'y réagir. Donc, je vais tout de suite aborder une première question. La vie sexuelle, c'est un récit de l'espace, de votre corps sexuel, de vos activités sexuelles. Et je me demandais, surtout pour votre intérêt à Yves Klein, entre autres, à quel point vous n'avez pas voulu donner une représentation de votre corps qui pourrait s'assimiler à une œuvre artistique. Je pense au dripping, quand vous parlez à un moment donné de ce sperme sur votre corps, ça me fait penser un peu au dripping, ou de la dureté des tables, ça me faisait penser aussi à vos notes sur Pollock qui disait aimer peindre sur quelque chose de solide. Donc, je me demandais si la représentation de votre corps, vous ne vouliez pas l'élever d'une certaine manière à l'œuvre d'art dans la vie de,
alors,
dans la vie sexuelle.
Non, parce qu'en fait, j'ai écrit un livre, je le considère comme une, en effet, un récit autobiographique. Et j'ai pas voulu faire œuvre, c'est-à-dire je trouve toujours un petit peu absurde. Oui, absurde, je crois, de se dire, tiens, aujourd'hui, je m'assois devant mon ordinateur et j'écris une œuvre d'art. J'écris un livre qui sera une œuvre d'art. Je pense que c'est pas à soi-même, c'est pas à l'auteur de donner la définition de l'objet en tant qu'œuvre d'art, mais c'est vraiment à celui qui le reçoit, à ceux qui reçoivent cette œuvre, de décider si, en effet, ils considèrent qu'ils rentrent dans cette catégorie ou pas. Donc ça, c'est une première chose. Et ce que je dis là, c'est valable aussi bien pour la vie sexuelle de Catherine M. que pour Jour de souffrance. Alors, oui, c'est vrai. Je vais répondre comme ça à votre question en plusieurs strates. D'une part, oui, c'est vrai. Ma culture, c'est autant, sinon plus, la culture une culture visuelle, la culture de quelqu'un dont le métier est depuis maintenant pas mal d'années est d'écrire sur l'art. Et finalement, ça me vient comme ça, je dirais, sous les doigts, quand je tape sur le clavier de l'ordinateur, aussi naturellement, ces références à l'art que si j'avais baigné uniquement dans une culture littéraire. Et quand d'autres vont, je ne sais pas, citer Joyce ou Marcel Proust ou Céline, moi je vais citer Salvador Dali, Jackson Pollock et Yves Klein. Donc ça, c'est ma culture. Et entre parenthèses, je sais que des fois ça agace un peu certains de mes confrères en littérature qui se sentent un peu perdus. Et ça m'est arrivé de lire des critiques un peu méchantes qui avait l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle nous snob avec ses références à Jackson Pollock ou à, je me souviens, à Drain Hart dans la préface de La vie sexuelle. Mm-hmm. Donc, tant pis, c'est comme ça, c'est ma culture.
Pourtant, il y a des références à Proust.
Il y a aussi des références littéraires. Je ne suis pas complètement non plus dépourvu de références dans ce domaine-là. Mais alors, plus précisément, et donc c'est vrai que quand je vais puiser des métaphores, quand je vais puiser des exemples qui m'aident à illustrer certains états de la conscience, c'est comme ce que vous venez de citer à propos du studio Lou du Palais du Urbino, des références qui peuvent être des références à l'art. En ce qui concerne les performances, je crois que c'est autre chose, c'est quelque chose de peut-être plus profond. C'est vrai, et dont j'ai pas été consciente, je crois, au tout début, quand je me suis mise au travail sur la vie sexuelle de Catherine M. Alors déjà, je crois que, ayant cet intérêt pour la vie du corps, pour les plaisirs du corps, et l'envers de ces plaisirs que sont les douleurs, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée dans les années 70 à des démarches d'artistes qui faisait ce qu'on appelait des performances, qu'on appelle des performances, qui étaient la mise en représentation du corps et dans des situations qui étaient très précises, qui n'étaient pas, comme pour un acteur, le fait d'être en costume sur une scène à une certaine distance du public. Mais au contraire, moi j'ai vu beaucoup d'artistes de la performance agir dans une petite galerie où tout le monde est autour à 1m50 du performeur, où bien souvent, dans beaucoup de cas, celui-ci était nu. Donc il y avait la présence de ce corps nu, comme ça, très très proche, et évidemment d'autant plus troublant. Et en général, ces performances, c'était une façon d'éprouver les limites du corps. Par exemple, j'ai un très grand ami qui est un artiste, sculpteur allemand, qui s'appelle Klaus Rinke. Et Klaus, par exemple, a eu cette idée tellement folle une fois de donner une conférence à partir d'une cuve transparente remplie d'eau dans laquelle il était complètement immergé, et grâce à un masque et à un tube qui sortait de cette masse d'eau, il parlait, il s'adressait au public. Donc jusqu'où son corps était capable de supporter cette situation. De la même façon, des artistes américains comme Vito Acconci, comme Denis Oppenheim, ont mis aussi leur corps dans des situations limites comme ça. Je n'ai absolument pas pensé à tous ces gens quand je me suis mise au travail sur la vie sexuelle de Catherine M. Et c'est parce que, je ne sais pas, des mois après la publication, j'avais été invitée dans un colloque lequel on m'avait demandé de mettre en rapport comme ça mon travail de critique d'art et celui d'écrivain, que j'ai réalisé à quel point finalement peut-être tout ça avait un lien et que finalement je m'étais peut-être intéressée à ces performances parce que quelque chose en moi faisait qu'un jour j'écrirais, je me mettrais aussi en exposition et aussi en exposition nue et dans un rapport de proximité très grand avec le lecteur, de la même façon que ces performeurs
l'avaient fait. Donc c'était pas prémédité.
C'était pas du tout prémédité.
Par contre, après coup, on peut y voir quand même certaines analogies, ou du moins un certain état d'esprit.
Je pense que ça appartient au parcours de chacun, finalement, et que petit à petit, on avance dans la vie, et notamment dans la vie professionnelle, ou dans son travail de création. Comme ça, on se cherche finalement. C'est une chose que j'explique aujourd'hui dans Jour de souffrance. Je crois que je suis rentrée dans la vie, allez savoir pourquoi, avec l'idée que j'écrirais. Et je ne savais pas ce que j'écrirais.
Donc l'idée qui vous suivait depuis...
Je la portais en moi et sur quoi j'allais écrire. Je n'avais aucune idée, c'est l'histoire de Proust, vous savez, qui dit « j'ai la musique, j'ai pas les paroles ». Donc, et je pense que beaucoup de vocations d'écrivains se passent de la même façon. On est habité par cette envie d'écrire.
Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, la crise que vous décrivez dans « Jour de souffrance » a été ce qui vous a révélé ce destin, ou ce qui vous a permis de prendre conscience de ce...
Complètement.
Entre autres sur la question des fantasmes, qui tout à coup vous sentiez, et je crois que c'est ce qui a participé à vous révéler la crise, c'est que tout à coup vos fantasmes ne vous appartenaient plus tout à fait, ou du moins ils avaient changé.
Mais vous savez, ça aussi c'est quelque chose qu'on reconstruit a posteriori, qu'on comprend a posteriori. Cette explication qui est donnée dans Jour de souffrance, de pourquoi j'ai écrit un jour ce livre tellement improbable, qui était vraiment une sorte d'ovni, et qui s'appelle La vie sexuelle de Catherine M. Je pense que, là, pareil, dans le moment même de l'écriture de La vie sexuelle, j'aurais pas été capable de dire, ben voilà, j'ai traversé il y a quelque temps cette crise de jalousie terrible qui m'a mis dans un état psychologique complètement, complètement second. Et voilà, j'ai traversé cette crise et du coup je me suis mise à écrire autre chose qu'un livre d'histoire de l'art. Je crois que ça c'est quelque chose qui vous apparaît quand vous avez suffisamment de recul pour en juger.
Oui, toujours cette question, c'est pas prémédité, le moi comme préexiste pas, ou du moins votre...
Oui, donc je crois que c'est juste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné dans les pages de Jour de souffrance... Le livre était pratiquement terminé. J'en avais pratiquement terminé la rédaction. Et j'ai travaillé sur Simone de Beauvoir, puisque c'était un centenaire Simone de Beauvoir. Et qu'on m'a demandé un texte pour lui rendre hommage. Et du coup, je me suis plongée principalement dans les mémoires, dans les nombreux volumes de ces mémoires. Et je suis tombée sur cette citation qu'elle fait, je crois, de Maurice Blanchot. Maurice Blanchot lui aurait dit un jour, vous savez, on se décide à écrire sous l'effet d'un accident de la vie. Voilà. Et j'ai trouvé que ça me correspondait complètement. Et en effet, je suis revenue en arrière dans mes pages pour pouvoir inscrire cette citation de Simone de Beauvoir citant Maurice Blanchot. Et sur cette question des fantasmes, alors oui, ça c'est un sujet qui est très développé qui apparaissait d'ailleurs. Il y avait des fantasmes qui était raconté dans La vie sexuelle de Catherine M. Mais le sujet est encore plus décrit dans Jour de souffrance parce que ça a joué un rôle tout à fait particulier.
Mais peut-être plus, beaucoup plus consciente du moins de ce qui s'est passé avec ces images et votre cinématographe intérieur.
Oui, c'est-à-dire... Et peut-être ça peut être une des articulations, parce que les choses ne sont jamais aussi simples, mais une des articulations entre donc, cet accident dans ma vie, cette crise de jalousie, et puis ce premier récit autobiographique qui est La vie sexuelle. Il s'est passé que, et c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai eu de l'intérêt pour Salvador Dali, je suis une masturbatrice qui alimente son onanisme avec beaucoup de fantasmes érotiques. Et depuis toujours, ces fantasmes érotiques étaient des représentations de moi-même dans des situations que je trouvais excitantes et qui, des fois, ressemblaient d'ailleurs plus ou moins à des situations que j'avais pu vivre et qui sont racontées dans La vie sexuelle de Catherine M. Et quand je suis tombée dans cette crise de jalousie, tout d'un coup, ces fantasmes ont complètement changé de nature. Et ce n'était plus ma personne qui se trouvait dans une situation érotique. C'était le sujet de ma jalousie, à savoir mon mari, Jacques Henrique, que je me représentais en compagnie d'autres femmes. Et c'était une chose terrible. C'est-à-dire, le jour où vous constatez ça, vous dites mais je ne m'appartiens plus. Mon imaginaire ne m'appartient plus. Et je raconte que, de façon extrêmement volontariste, je me disais, non, là, je vais essayer de m'exciter avec d'autres fantasmes où c'est moi qui suis en scène. Mm-hmm. Et c'était devenu complètement impossible. Donc, c'est devenu assez fou, ça. Et finalement, je pense, et là aussi, je le répète a posteriori, je pense que, il y a eu des opportunités, il y a eu des facteurs objectifs qui m'ont conduite à me mettre au travail sur La vie sexuelle de Catherine M. Mais en fait, je pense que c'était aussi une façon de nouveau mettre en scène des images où, enfin, ce n'était plus Jacques Henrique qui était le personnage principal, mais à nouveau moi. C'était une façon de me réapproprier mon imaginaire. Oui.
On a beaucoup l'impression, à travers les deux romans, les deux récits l'un à côté de l'autre, qu'il y a beaucoup la question de l'absence et de la présence. Dans le premier, avec la vie de Catherine M., vous êtes un corps qui performe, mais en même temps, vous dites qu'il y a une certaine absence au niveau de votre conscience. Et dans le deuxième aussi, il y a une absence de vous-même dans les fantasmes, comme vous dites. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que ce travail de présence-absence, est-ce que ça passait pas de se rendre présent, de se réapproprier certains aspects de sa vie, passait pas pour vous par l'écriture? Parce que des fois, il y a des anecdotes où vous dites « j'étais enfant, on jouait à un jeu », et parfois, j'étais plus dans le jeu. Et vous avez tellement ce regard aussi extérieur, où vous regardez, où vous observez, et c'est un peu le drame aussi de l'écrivain qui est toujours en observation. Est-ce qu'on vit quand on écrit? Est-ce qu'on est? Il y a toujours ce jeu d'absence présence. Et je me demandais si pour vous l'écriture c'était pas une manière de se rendre présent à sa vie, en fait, à son existence.
Ah oui, sûrement. Ça aussi c'est la leçon de Proust. C'est que la vraie vie, c'est celle qui est écrite. En fait, je pense que c'est une expérience que tous les enfants et très jeunes enfants, et je pense que c'est une expérience constitutive de la personnalité de chacun, c'est de se sentir dans une relation, disons, d'amour avec les autres. Est-ce que je suis aimée? Est-ce que mon père, ma mère va me prendre dans ses bras pour me prouver son amour? Et forcément, parce que la vie est faite comme ça, on a très très jeune cette expérience d'avoir le sentiment de ne pas être suffisamment aimée parce que le père ou la mère a été distrait, il s'est occupé d'autre chose. Vous avez un frère, c'était mon cas. Votre mère s'est occupée de ce frère et pas de vous ce jour-là. Et donc, forcément, vous faites très, très jeune cette expérience de l'exclusion. Je suppose que selon la petite personnalité là que chacun a déjà commencé à construire, on se défend, on réagit avec ce que, les moyens qui sont à votre disposition. Et moi, je dois faire partie de ceux qui en ont pris leur parti, si j'ose dire, qui se sont dit, ah bon, tout le monde jouait à un jeu et on m'a oublié, donc on ne m'aime pas. Mais du coup, ça me met dans une situation de solitude que je vais apprécier, que je vais aimer. Et cette exclusion devient le poste d'observation qui fait que, voilà, vous mettez en dehors du jeu, alors vous ne... Pour continuer à filer la métaphore, comme on dit, je dirais, vous n'avez plus de... C'est une sécurité, vous n'avez plus à vous poser la question de savoir si vous allez perdre ou gagner le jeu, à la limite. C'est beaucoup plus fort que ça. Vous êtes celui qui va en garder la mémoire et qui va pouvoir le raconter. Et je pense que, voilà, j'ai dû prendre ce parti-là, d'être l'observatrice qui était... Voilà, qui avait ce pouvoir-là, de pouvoir tout garder en mémoire pour un jour l'écrire.
Justement, je voudrais en venir à la question de la mémoire. Et vous avez cité Proust, comme vous dites, si certains critiques littéraires ont senti que votre truc était plus l'art et que vous citiez Pollock, vous avez déjà cité Proust deux fois ou trois peut-être même depuis le début de l'entrevue. Je voudrais en venir peut-être à Proust, parce que Jour de souffrance révèle quelqu'un qui devient écrivain, et à mon avis, les dernières pages sont un peu un métacommentaire de votre écriture, comme j'avais trouvé par exemple ce métacommentaire sur l'art, comment vous appropriez l'art, et comment l'art, le procédé esthétique, etc., vous permettait de réfléchir sur vos actions, vos expériences, tout ça. Or, à la fin, à mon avis, de Jours de souffrance, vous avez aussi un métacommentaire sur l'écriture qui a quelque chose qui tient vraiment de Proust, en tout cas, en partie. Donc, ça pourrait être une manière aussi de répondre à ces critiques littéraires. Par contre, avant de vous laisser parler, j'aimerais un peu formuler un peu plus ma question. Dans la vie sexuelle de Catherine M., j'ai dit que c'était un récit de l'espace. Je crois que c'était clair pour vous. De toute manière, vous l'avez très bien laissé entendre avec deux chapitres, entre autres, espace replié, c'est clair. Les liens avec Yves Klein, peintre de l'espace, etc., étaient très clairs. Or, il me semble que Jour de souffrance n'est plus un récit de l'espace, mais plutôt un récit de la durée. Durée d'une jalousie, durée d'une crise. Qui est ce qui est le plus apparent, mais ce qui est peut-être une autre durée qui est peut-être encore plus importante dans ce roman, c'est la durée entre, je dirais, votre enfance, où vous prenez conscience que vous voulez devenir écrivain avec Françoise Sagan, une manière de vous sortir aussi de votre milieu, votre rencontre avec Claude, votre rencontre avec Jacques, jusqu'au moment où, à la fin, vous devenez écrivain, vous réfléchissez sur l'écriture. Donc, il y a cette durée. Et cette durée, j'appellerais, c'est peut-être ce qui est la vraie durée de Jour de souffrance, c'est entre rêver à son avenir et faire de notre vie passée un rêve. Donc, il y a cette durée-là. Donc, je me demandais à ce moment-là, parce que dans la vie sexuelle de Catherine, le problème, il y avait un problème de temporalité. On ne se retrouvait pas chronologiquement. En tout cas, vous ne faites pas attention à faire une chronologie par date. On est dans des nappes de passé qui viennent coexister comme ça. Par contre, je dirais que dans la vie sexuelle, ce problème de la temporalité, il était lié à l'espace. Vous aviez une hyperacuité visuelle de vous-même qui faisait en sorte que, bon, le temps, vous pouvez mettre ça un peu de côté. Or, dans Jour de souffrance, il me semble qu'il y a le même problème d'intemporalité, c'est-à-dire qu'elle n'est ni chronologique ni linéaire. On est dans une coexistence de nappes de passé. On est vraiment en voyage dans votre mémoire. Or, c'est un problème de... le problème de la temporalité n'est plus lié à une question de l'espace, mais une question d'une durée qui vous serait propre. Une durée qui fonctionne beaucoup aussi par image. Vous produisez beaucoup d'images, vous parlez de cinématographe intérieur. Je me demandais, et là ça c'est un peu ça m'appartient aussi. Ce sont mes références. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose de l'image tant deleuzienne. Je ne sais pas si vous connaissez les livres de Deleuze sur l'image.
Ah oui.
L'image tant de Deleuze pourrait ressembler un peu en littérature à ce que faisait Rob Grier ou au cinéma avec l'année dernière à Marienbad ou les films de Chris Marker, où on est justement dans une coexistence comme ça de nappes de passé, de souvenirs, et où la chronologie ou la linéarité n'est plus. Par contre, on est dans une durée vraie, une durée vécue.
Oui, là, c'est assez juste parce qu'en plus, là, vous faites référence par exemple à Rob Grier. Bon, j'étais assez amie d'Alain Rob Grier, et je dois dire, alors, oui, même les films, que lorsque j'étais une très jeune adulte, aussi bien la lecture de ses romans que la vision de ses films, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup compté. Et en effet, en vous écoutant, je me dis, une des séductions peut-être que ça pouvait exercer, c'était cette définition d'un temps très, très mou, très malléable, comme ça, voilà, très flottant. Bon, on a la sensation d'un temps, comment dire les choses, en effet, il n'est pas linéaire, il vous porte et vous fait passer comme lorsqu'on est en train de prendre un bain dans la mer et qu'on passe d'une couche d'eau chaude à une couche d'eau plus froide, comme ça, voilà, il y a des... On passe d'une nappe à une autre, comme vous disiez. Et que ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, quand même, cet abandon qu'on peut avoir à cette notion malléable du temps.
Il y a quelque chose aussi, au sens où... Justement, votre écriture devient, il y a un souci de la composition, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une situation à une autre qui n'appartiennent pas du tout au même passé ou au même temps, et vous le faites dans une transition d'une douceur et cette coexistence de passé ou ce temps mou, comme vous avez dit, se voit dans l'écriture.
Oui, mais vous savez, c'est aussi, alors là, je dirais, c'est l'expérience de l'analyse, de la psychanalyse. On est en permanence dans ce genre de temporalité en analyse. On vient s'allonger sur le divan, comme ça a pu m'arriver, au moment où j'ai connu cette crise de jalousie, avec une douleur qu'il est urgent, comme ça, il est urgent de trouver la sortie. Et en même temps, remontent des douleurs qui appartiennent à un temps bien, bien antérieur, évidemment. Et puis, il y a ce temps du rêve aussi, qui vous fait passer aussi tout le temps d'un moment à un autre, finalement, qui peuvent être très, très éloignés du point de vue de la chronologie. Donc, je pense que moi, c'est la conscience de ça aussi qui me fait travailler de cette façon. Mais... Je crois que j'ai été très consciente que ce qui guidait la construction de Jours de souffrance était plus une problématique de temps que pour la vie sexuelle de Catherine M., essentiellement une question d'espace. Je pense que ce qui a déterminé cette emprise du temps dans le second récit, c'est justement que d'emblée je me suis rendu compte, alors que finalement j'ai signé un contrat avec l'éditeur où je disais ben voilà, je vais faire le récit d'une crise de jalousie, ok, très bien, ça suffisait, c'était suffisamment intéressant. Quand j'ai commencé vraiment à réfléchir concrètement au livre, je me suis rendu compte que c'était inséparable cette autre problématique qui était la venue à l'écriture. Voilà. Et que pour cela, il fallait donner à ce personnage de femme jalouse que je mettais en place dans mon récit une densité. Il lui fallait un passé, il lui fallait une enfance. Il lui fallait, oui, une épaisseur comme ça que n'avait pas la figure centrale de la vie sexuelle de Catherine M. Et donc, il y a ce début, assez long finalement, proportionnellement, à ce qui est le récit même de la crise de jalousie, et qui est le rappel de ce qu'a été, d'une part, l'enfance, puis la vie de très jeune adulte de cette figure-là. Et donc, oui, il y a, le, il y a déjà ce, ce temps-là. Et puis, d'une façon assez arbitraire, je dirais, pour des raisons qui sont quasiment des raisons formalistes, je souhaitais avoir une alternance de chapitres assez lents. Quand, pour faire comprendre comment la douleur s'installe, comment d'abord il y a comme un, une période un petit peu où, comment dire, on est comme avant que le microbe se déclenche,
oui,
une période d'incubation, voilà. Il y a eu un événement qui m'a fait tomber dans la jalousie. Mais ça n'a pas été ressenti d'une manière très douloureuse immédiatement, évidemment. Il y a eu ce temps comme ça d'incubation. Il y a eu ce voyage que j'ai fait en Europe centrale, que je raconte, et au travers lequel je veux donner la sensation de ce temps comme ça, de latence en effet. Bon. Et puis je voulais, en alternance avec ce genre de chapitres, des chapitres qui racontaient des moments de crise paroxystique, qui sont des moments alors plus courts, plus ramassés, où les phrases sont souvent aussi beaucoup plus courtes, etc. Et qui sont comme des moments, je dirais, des ramassis de temps, justement, même dans le souvenir qu'on en garde. Et donc je voulais ce genre de construction comme ça. Et puis, troisième, peut-être, comment dire, intervention du temps dans ce récit, et qui concerne plutôt alors le, peut-être le début du livre, et puis peut-être aussi un petit peu la fin, c'est que nous-mêmes, dans notre tête, dans notre esprit, nous ne vivons pas toujours dans les mêmes temporalités. Je raconte au début du récit comment, en fait, au début de ma relation avec Jacques Henrique, en principe, c'était son souhait. Je devais changer quelque chose à ce qu'était mon mode de vie sexuel. Et en fait, je n'ai pas vraiment arrêté non plus ce mode de vie. Mais je m'arrangeais, si j'ose dire, avec ma conscience, de telle façon que ce que je faisais à ce moment-là appartenait déjà à du passé. C'était comme un résidu d'une vie passée. Voilà. Et souvent, les circonstances dans lesquelles, comme ça, ce mode de vie sexuel, cette situation de libertinage se déroule, c'est souvent la nuit, c'est dans des endroits un peu inconnus, qu'on discerne pas très bien, etc. Et donc, ça vous met un peu dans un état un peu second, comme si c'était dans un rêve ou dans un passé très lointain, etc. Et donc que ça pouvait aider à cette sensation que je vivais dans le présent quelque chose qui en fait appartenait à un passé.
Pour continuer un peu dans cette veine-là, et pour enfin arriver à Proust, qui serait ma dernière question, et finir, il y a quelque chose donc dans la crise où ça va être un peu facile peut-être, un lieu commun. Vous avez retrouvé le temps, hein, une espèce de temps retrouvé dans le jour de souffrance qu'il n'y avait pas dans la vie sexuelle de Catherine M. Et au moment où vous en avez conscience, ou du moins au moment où vous l'exprimez le mieux dans le livre, c'est à la fin, et c'est là que vous parlez d'écriture. Vous parlez beaucoup d'écriture, et là on sent, et c'est là que rétrospectivement on peut lire le jour de souffrance, et on se dit, finalement, comparativement au premier récit, il y a vraiment pas une, comme une dématérialisation du corps, ou une disparition un peu du corps au profit de quelque chose qui surgit. Comme si dans la vie sexuelle, c'était le corps en surface, et maintenant c'était quelque chose qui venait du plus profond du corps. Je crois que vous le dites, hein, à un moment donné dans le roman, il s'agit maintenant du corps intérieur, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas la mémoire qui, tout à coup, prend beaucoup d'espace en jour de souffrance plutôt que le corps? Et c'est là qu'on arrive un peu à Proust, parce que pour lui, l'œuvre d'art est très liée à la mémoire. Je vais rappeler une citation à la fin du Temps retrouvé, où Proust dit, et là je le cite, « Or, la recréation par la mémoire d'impressions qu'il fallait ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalent d'intelligence, n'est-elle pas une des conditions, presque l'essence même de l'œuvre d'art ?» Donc, est-ce que vous avez finalement pensé un peu à Proust? Est-ce qu'il y avait quelque chose, ou si on peut dire vos récits autobiographiques, si on voulait trouver une filiation, ça serait peut-être celle de Proust, plus que celle de Rousseau? Vous parlez de Rousseau.
Oui, oui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont en permanence un volume de Marcel Proust sur leur table de nuit, et je fais partie de ces gens-là. Donc, c'est... Pour moi, c'est naturel, je baigne là-dedans. Il y a un critique en France qui a commenté « Jour de souffrance » en disant que parfois mes phrases étaient au bord de la parodie des phrases de Proust. Et je l'admettrais bien d'ailleurs, cette critique, parce que moi-même, j'essayais de faire attention. De temps en temps, en me relisant, je me disais « Oh là là, non, ça c'est un peu trop proustien ». Et je faisais l'effort quand même de recouper un peu ma phrase pour pas que ça soit aussi long qu'une phrase de Proust. Mais il y a...
Mais je ne parlais pas dans votre style, je parlais plutôt dans le fait que l'écriture est liée à la mémoire.
Oui, mais...
Au temps, est liée à la durée. Ça, c'est à mon
avis... Parce que je pense que je fais partie... Alors, par exemple, à la différence d'une amie à moi que j'aime beaucoup, qui est Christine Angot. Christine, je crois, elle est dans la performance. On parlait tout à l'heure de performance. Christine, elle est dans la performance. Christine, même lorsqu'elle emploie, comme elle vient de le faire, l'imparfait pour un récit, elle est dans le présent. Et je trouve ça d'ailleurs absolument remarquable, c'est-à-dire qu'elle est capable de raconter des épisodes de sa vie quasiment comme d'autres écrivent un journal. Sauf qu'elle, elle en fait justement quelque chose qui est plus de l'ordre du récit, du roman, et que c'est construit, ce qui n'est pas le cas d'un journal. Elle, le récit, l'écriture est quasi simultanée avec le vécu. Moi, pas du tout. Vous savez, à propos de Proust, il y a aussi ce cliché de dire qu'il a bien vécu, et puis un jour il s'est couché, il s'est mis à écrire. Bon, alors, c'est pas mon cas, et j'espère que la maladie que j'ai aujourd'hui ne va pas m'obliger à me coucher. Mais c'est vrai qu'il fallait que je sorte d'un certain mode de vie, par exemple pour la vie sexuelle de Catherine M. Il fallait que je sois grosso modo sortie de cette vie de libertinage pour que je puisse la relater. Il fallait que j'aie cette distance et que donc, en effet, désormais, elle appartienne au passé et donc à la mémoire. Et de la même façon, Jour de souffrance, je n'aurais pas été capable de l'écrire, même dans les mois qui ont suivi l'issue qu'a eu cette crise. Un critique m'a posé la question, on m'a dit, mais pourquoi, puisque vous vous êtes mise à écrire comme ça des récits autobiographiques après cette crise de jalousie, comment se fait-il que vous ayez écrit La vie sexuelle de Catherine M. et non pas Jour de souffrance? Et non, je n'aurais pas pu, parce que c'était encore une expérience qui était trop, trop proche de moi, comme ça. Il faut que ça ait acquis presque une sorte d'irréalité, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je dis que le passé devient comme du roman, finalement. Du rêve, du roman, de la fiction. Il faut que on ait une relation, comment dire, aussi, je dirais, apaisée.
C'est un bonheur, comme vous dites.
Oui, c'est un bonheur. C'est un bonheur, même pour se souvenir, comme c'est le cas pour Jour de souffrance, d'une période qui a été extrêmement douloureuse.
Oui, peut-être qu'on pourrait... quand vous dites, vous parlez comme ça de votre écriture, j'ai envie de dire l'écriture comme un remède. Mais je n'irai pas tout à fait dans ce sens-là, mais
Je crois qu'on peut le dire d'une façon très générale, finalement.
Oui, oui, c'est ça. Comme vous avez dit, vous avez cité, l'écriture vient suite à un accident. J'irai dans le même sens à travers cette première question. À travers les deux romans que vous avez écrits, les deux récits, plus particulièrement dans Jour de souffrance, on sent que votre travail d'écrivaine consiste en une technique d'écriture de soi, au sens où la relation du sujet, de l'auteur, avec son œuvre, est en fait plus une relation sujet-sujet, de soi à soi. Et ce travail d'écriture s'apparente, dans votre cas, à un exercice, on a l'impression constante de lucidité sur vous-même, et te sens autant dans la vie réelle que dans vos fantasmes, puisque vous explorez aussi avec beaucoup de minutie cet aspect-là de votre vie. Et donc ça exige une véritable attention à ce que vous êtes, ce que vous avez été, et ça donne un accès à votre singulier, je vous cite, patrimoine singulier aussi, bon, de le comprendre et de le mettre en lumière. Et dans quel sens, dès lors, cette connaissance de vous-même vous permet d'avoir en quelque sorte une prise sur votre destin, après le recul, hein, bien sûr, le recul, l'écriture, ce qui finalement pourrait s'apparenter à un souci de soi qui serait aussi un exercice de liberté. Alors là, plutôt que de juste parler de remède, cette prise, est-ce que c'est pas un exercice de liberté sur, sur votre forme, sur la forme de vie que vous vous donnez?
Oh, écoutez, oui, je dirais que là aussi la réponse, elle est multiple, ou en tout cas elle peut se détailler comme ça en plusieurs choses. D'abord, oui, vous savez, ce que vous, enfin, moi en tout cas, c'est mon expérience, ce que vous avez mis de vous-même dans un livre, je ne dis pas dans le temps de l'écriture, ce n'est pas le cas, mais une fois que le livre est publié, ça devient un objet mort. C'est vraiment quelque chose qui ne fait plus partie de vous. Et ça m'est arrivé assez souvent de raconter cette expérience qui était au début pour moi très troublante. C'est que certains souvenirs qui ont été racontés dans la vie sexuelle de Catherine M, avec ce souci de fidélité aux événements réels, de souci du détail, etc., qu'on a bien voulu me reconnaître. Une fois que le livre a été publié, je n'avais plus ces souvenirs en direct. Si je dois me souvenir d'un événement raconté dans le livre, il me revient sous la forme telle qu'il est raconté dans le livre, avec forcément tous les arrangements qui ne sont pas des infidélités au réel, mais ces arrangements que nécessitent l'écriture, évidemment, une simplification, par exemple, du récit, ou comment dire, ça m'est arrivé d'une transposition pour masquer, pour ne pas compromettre les personnes dont il était question. Je déplaçais le lieu, je déplaçais les circonstances, par exemple. Or, je suis devenue incapable, aujourd'hui, que le livre est paru encore plus maintenant, depuis quelques années, incapable de retrouver dans sa fraîcheur le souvenir premier qui a produit le souvenir raconté dans le livre, comme ça. Donc c'est pour vous dire à quel point ça devient un objet mort. Bon, j'ai fait cette expérience aussi, finalement, d'exposer au public des faits de ma vie et même de ma personne qui sont considérés comme parmi les plus intimes. Bon, et peut-être encore plus maintenant, je crois, avec Jour de souffrance, finalement, qu'avec le récit sexuel. Et là aussi, ça crée un détachement et ça crée une liberté. C'est-à-dire que, quelle que soit l'interprétation qu'on en fasse, je ne me sens pas atteinte. Si je vois venir à moi des gens qui trouvent que la figure contenue dans ces livres est plutôt quelqu'un de sympathique, je suis très contente, tant mieux. Comme ça s'est beaucoup produit pour la vie sexuelle, au contraire, viennent à moi des gens qui trouvent cette figure antipathique, critiquable. Et là, Dieu sait s'il y a eu des articles dans la presse extrêmement méchants et désobligeants, y compris sur mon physique, par exemple, alors que je suis comme toutes les femmes, je suis assez narcissique. Ah, je me suis sentie complètement libérée. Tous ces regards portés sur Catherine M, finalement, m'ont libérée de Catherine M. C'est une sensation, je dois dire, assez agréable. C'est une sensation d'allègement. Voilà, oui.
Dans le même sens, vous semblez maîtriser donc presque parfaitement cette technique d'écriture de soi qui consiste en gros à produire des images de soi plus ou moins narrativisées, au point où l'on pourrait confondre votre démarche à celle d'une fabrique d'images de vous-même. Ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. Et après tout le battage médiatique suscité par vos récits, desquels vous dites que vous ressentez un plaisir, une libération à la suite, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez quelque chose du sex appeal de Narcisse, au sens où vous l'avez dit de Dali, je vous cite, dans Dali et moi, le soin apporté par Dali au façonnement de sa personne publique, auquel contribue le dévoilement de quelques-unes de ses habitudes les plus intimes, fait de lui un prédécesseur des avant-gardistes qui ont prétendu maîtriser leur vie au même titre que leurs œuvres. Vous souciez-vous d'authenticité à travers les images que vous produisez de vous-même, c'est ma question, ou bien accordez-vous à ce qu'on pourrait appeler des simulacres, des images fictionnelles de vous-même, une valeur de vérité?
Ah oui, non, alors vraiment, j'ai pas du tout le souci. Dans la suite d'ailleurs de ce que je vous disais à l'instant, j'ai pas du tout le souci de me construire un personnage qui serait, une figure assez stable. Et moi, à mon avis, ça relève. Alors, s'agissant de Dali, ça serait adapté. Je pense que ça relève de personnalités assez paranoïaques. Moi, je pense que c'est complètement illusoire de la part de certaines personnes qui sont, à cause de leur œuvre d'ailleurs, qui peut avoir une très grande qualité, très médiatisée, de vouloir absolument, de façon presque rigide, ne présenter qu'une image d'eux-mêmes qu'ils auraient construite comme ça. Alors, j'ai toujours dit, je peux le comprendre dans la mesure où ça fait partie de leur métier, par exemple, un acteur de cinéma, si son rôle c'est d'être le séducteur, le playboy, mon Dieu, qu'il ne veuille pas se laisser photographier, je ne sais pas, le matin au réveil, quand il se rase ou qu'il se brosse les dents, je comprends, c'est son job. En revanche, quand je vois autour de moi des amis artistes ou écrivains qui veulent justement soigner comme ça leur image et faire en sorte que cette image soit unique, en quelque sorte, sur laquelle les autres n'auraient pas la prise de la modifier, je trouve ça complètement illusoire. Ils n'empêcheront jamais que les autres projetteront quelque chose sur cette espèce de figure qui leur présente. Donc non, moi je suis pas. Alors, est-ce que je suis néanmoins, votre question c'était, est-ce que je suis dans une démarche de construction de soi? Je crois que non.
Même au sens le plus créatif, hein, c'est parce que là j'emploie le mot fabrique.
J'aimerais, c'est-à-dire, l'objet que je construis, les objets que je construis, ce sont mes livres. C'est le fruit de mon travail. Et je pense que pour ça, je serais assez, assez exigeante, assez intraitable. Je ne ferai pas de concessions sur la manière dont j'entends finaliser cet objet. Mais pour moi-même, par exemple, je ne fais pas des récits autobiographiques pour trouver une vérité de moi-même. Je m'en fiche de ça. Je ne pense pas que notre personnalité puisse se réduire à une sorte d'essence, voilà, qu'on aurait en soi, et qu'un certain travail sur soi, justement, permettrait de faire émerger.
Absolument.
Qu'on soit en accord avec soi-même. D'abord parce que la personnalité, c'est quelque chose de meuble. C'est quelque chose qui ne cesse de se transformer selon les circonstances de la vie. Des gens qui sont des gens... Je m'intéresse parfois à certains faits divers. Des gens qui sont destinés à avoir des petites vies d'employés sans histoire peuvent se retrouver être capables d'actes d'héroïsme absolument incroyables. Donc, qui aurait pu penser qu'ils avaient en eux l'essence d'un héros? Personne. Et puis, l'acte héroïque passé, ils retourneront à leur banalité, si j'ose dire. Donc, je pense pas qu'on ait à attraper quelque chose qui serait une vérité de soi.
Non, pas une vérité de soi, mais une construction de soi. Dans ce travail d'écriture, vous ne vous construisez pas totalement, mais cela participe de votre construction, en fait. Ça ne se limite pas, mais ça participe à travers ce travail de création d'écriture.
Il y aura forcément, si je continue ce travail autobiographique, il y aura sûrement un moment donné, un point final, et à partir duquel d'autres pourront décider que, voilà, au bout de 2 et peut-être, je sais pas, 3 et peut-être plus de livres autobiographiques, j'aurais fini par construire un personnage, mais c'est pas moi qui en aurais décidé, je pense. Je crois que au contraire, j'aurais envie de dire, je me sens plus dans un processus de déconstruction, finalement, que dans un processus de construction.
Vous m'ouvrez la porte pour me poser une autre question à partir de vos critiques d'art. À un moment donné, vous avez écrit un article, c'est dans La Critique s'expose. Vous avez écrit un article sur une rétrospective de Support Surface en 91. Et vous opposez iconoclaste à hédoniste. L'iconoclaste, ce serait, bon, des figurations ou des constructions d'images, etc. Les données, ça serait plutôt lié à l'esthétisme de l'image. Et vous dites que c'est donc ce groupe Support Surface qui c'est des expositions, enfin, étaient des artistes actifs à la fin des années 60, je crois, c'est ça?
Oui, toute fin des années 60, ouais. Et puis les années 70.
Vous avez dit, bon, eux, on sent bien le côté iconoclaste. Par contre, il touche jamais à l'intégrité du tableau, donc il retombe dans un certain hédonisme que vous associez à esthétisme. Donc, par contre, les expressionnistes abstraits américains, eux, allaient vraiment loin dans l'iconoclastisme. Je me demandais à ce moment-là, avec l'image de vous-même, c'est quand même des récits autobiographiques, est-ce que vous êtes, contrairement à ce que vous pourrez penser, beaucoup moins hédoniste dans le sens que vous dites qu'iconoclaste. Vraiment, je suis dans votre vocabulaire un peu là, de critique d'art aussi.
Oui, on pourrait le dire comme ça.
C'est-à-dire que vous ne cherchez pas une image de vous, esthétiser une image de vous, comme vous l'avez dit avec David, vous ne cherchez pas seulement qu'une image et la travailler, la retravailler et la retravailler pour arriver à une espèce de perfection du tableau. L'image, au contraire, vous travaillez une image qui, un peu comme le temps, est plutôt floue.
Je vais faire un détour par... mon travail, même pas, je dirais, de critique d'art, là, mais de directrice d'art presse. Là, récemment, il y a quelques jours, avant de venir ici, à Montréal, je lis l'article qu'un de mes très jeunes collaborateurs vient de faire sur une exposition sur le futurisme qui vient d'ouvrir au Centre Pompidou à Paris. Et je lis dans sa critique une remarque qui me surprend beaucoup. Il parle d'un grand tableau de Severini, très célèbre, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle, je crois, La danse de Pampan à Monico, qui est censé représenter une salle de bal, mais qui est un tableau post-cubiste, complètement éclaté, avec des couleurs en plus très vives, ce qui fait que le regard devant ce tableau, en plus, donc je répète, de grand format, est complètement affolée. C'est un peu comme ça le sera quelques années plus tard devant un film de Pollock. Il n'y a pas un endroit précis où le regard peut se poser. Au contraire, on est dans un affolement du regard. Et donc, il parle de ce tableau et il lui reproche d'empêcher le regard de se poser sur une figure centrale, ou sinon centrale, privilégiée. Et je lui ai dit, mais c'est très curieux que tu critiques le tableau pour cette raison-là, alors que pour moi, c'est ce qui en fait toute la valeur. C'est-à-dire que pour moi, en effet, c'est une valeur de la modernité que d'avoir cassé comme ça non seulement la figure centrale du tableau, mais la règle qui le met en place, qui le régit, moi je suis, et je pense d'autres avec moi, peut-être de la même génération, beaucoup plus intéressé par des œuvres qui vous mettent en déroute, mm-hmm. qui vous donnent l'impression que vous êtes dépossédé de vos modes de perception classiques comme ça, et que du coup vous êtes obligé d'inventer quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça c'est des effets de passage de génération à une autre, mais je crois que indirectement j'ai répondu à votre question. Je suis en effet iconoclaste, plus du côté de l'iconoclaste.
Ce qui m'a beaucoup intéressé, iconoclaste et hédoniste, et évidemment le mot hédoniste, parce que bon, il est question de vie sexuelle, mais justement, avec vos deux concepts, tout à coup, on pouvait dire que non, la vie sexuelle de Catherine M. n'est pas un récit hédoniste.
Non.
Je trouvais ça amusant de pouvoir le
non.
dire
oui, c'est vrai,
dans vos termes même de critique.
Oui, c'est vrai.
D'éviter ce...
C'est vrai, oh, des fois ça m'est arrivé un peu comme ça, par facilité de, d'ailleurs, d'employer le mot, d'ailleurs ne serait-ce que pour prévenir mon éditrice pour deux jours de souffrance. De temps en temps je lui disais, tu sais, je suis en train d'écrire pour toi un livre qui est moins hédoniste que le précédent, pour pas qu'elle soit trop étonnée. Mais c'est vrai que je pense pas que la vie sexuelle de Catherine M soit un livre hédoniste. Au contraire, moi j'ai toujours dit c'est un livre réaliste. C'est un livre qui raconte le plaisir qu'on a pu prendre à ce type de sexualité, et qui a pu aussi tenir compte de ses désagréments, finalement, de ses limites et tout ça. Donc non, je suis pas une hédoniste.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, et merci d'avoir tendu l'oreille comme ça pour m'écouter.
C'est un plaisir.